Les gouvernements alliés et associés déclarent, et l'Allemagne reconnaît, que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. Article 231 du traité de Versailles.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En janvier 1919, le monde s'est donné rendez-vous à Paris. Effectivement, va s'ouvrir la conférence de la paix qui a pour but d'organiser les traités qui doivent redonner un ordre international, car évidemment, celui qui précédait 1914 a été fortement abîmé par le conflit. Tout le monde est représenté parmi les vainqueurs. On retrouve les petites puissances qui ont participé au conflit, mais évidemment, il y a cinq grands. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Italie et le Japon. Et parmi ces cinq, on peut dire que les trois premières puissances jouent le rôle principal. La France est représentée par Georges Clemenceau. Il a à ce moment-là 78 ans. Il est encore en bonne forme, toujours plein d'énergie, de volonté. Il a mené le pays à la victoire du 11 novembre 1918. Et il a une opinion qui est extrêmement remontée contre l'Allemagne. La France est sortie victorieuse, mais ensanglantée, épuisée. Et le vieux président du Conseil ne manque jamais l'occasion d'aller faire visiter à ses hôtes étrangers les champs de bataille, les villes françaises détruites dans le nord et dans l'est, pour leur montrer que la France est en mesure d'exiger une paix de réparation. Le Premier ministre britannique est David Lloyd George, un libéral de l'aile gauche du parti. Il est Premier ministre de la Grande-Bretagne depuis 1916. Il est indéniablement au début de la conférence plutôt sur une position de sanction vis-à-vis de l'Allemagne. Ensuite, il progressivement se ravisera en estimant qu'il ne faudrait pas tout de même laisser le continent sous la seule influence d'une France victorieuse et donc essaiera d'adoucir quelque peu le sort de l'Allemagne, d'autant plus qu'en bon britannique, il envisage que le marché allemand puisse servir pour le commerce anglais. Le troisième, c'est donc le président Woodrow Wilson, élu une première fois en 1912, réélu en 1916, et qui vient faire une grande tournée en Europe au début de l'année 1919. Il a dans sa poche sa déclaration du 8 janvier 1918, dite des 14 points, où il établissait toute une série de critères qui devaient servir, selon lui, à rétablir un ordre international à la suite de la Première Guerre mondiale. Les conversations ont été rudes, âpres, difficiles, mais finalement, on aboutit à un texte que les Allemands, d'ailleurs, n'ont pas eu à négocier et qui est donné au gouvernement allemand le 7 mai 1919. Les Allemands obtiennent la possibilité de, évidemment, étudier le texte et faire des remarques. Le texte est sévère, difficile. Seulement, le problème, c'est que les Alliés ne sont pas prêts à négocier grand-chose. Donc, le choix pour les autorités allemandes est soit d'accepter le traité de Versailles, dont nous allons voir dans quelques instants les tenants et les aboutissants, ou alors prendre le risque d'une reprise des hostilités, mais face à un pays qui n'est pas en mesure de les reprendre. Donc, l'Assemblée allemande vote l'acceptation du traité par 237 voix contre 138, ce qui lui évite une reprise du conflit, voire l'occupation. Et c'est donc le 28 juin, dans une galerie des glaces bondée, que les dignitaires allemands, représentant la République de Weimar, viennent signer le traité de Versailles. Le choix du lieu de la signature n'est évidemment pas innocent. car c'était exactement là qu'en 1871, l'Empire allemand avait été proclamé. La France a tenu évidemment à effacer l'humiliation de 1871 par la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. C'était indéniablement une paix de punition. Quel est donc le contenu du traité de Versailles? Voyons d'abord les remaniements territoriaux. L'Allemagne va être amputée de 15% de son territoire et d'environ 10% de sa population, au profit de la France, qui récupère bien sûr l'Alsace et la Lorraine mosellane, mais aussi de la Belgique, puisque celle-ci intègre les cantons d'Eupen et de Malmedy, du Danemark, qui récupère la partie nord du Schleswig-Holstein, mais également de la Pologne, qui est recréée à l'issue de la Première Guerre mondiale et qui peut récupérer une partie de la Prusse orientale, la Poznanie, et qui, par le couloir de Danzig, a un débouché sur la mer Baltique. Mais les autres clauses ne sont pas moins difficiles pour l'Allemagne. Il y a des clauses militaires. L'Allemagne doit livrer 5000 canons, ses avions, les quelques blindés dont elle dispose, et sa flotte, qui finalement se sabordera dans la baie écossaise de Scapa Flow. L'armement allemand est d'ailleurs limité. L'armée n'a plus droit aux blindés, à l'artillerie lourde, à des forces aériennes. Celle-ci est théoriquement limitée à 100 000 hommes, avec un service militaire qui est aboli. Et afin de garantir la non-remilitarisation de l'Allemagne, des garnisons françaises et belges s'installe sur la rive gauche du Rhin, à Coblence, à Mayence et à Cologne. Ensuite, il y a les questions économiques. La guerre a été extrêmement coûteuse. Or, un slogan commence à apparaître en France, l'Allemagne paiera. À vrai dire, au moment de la signature du traité de Versailles, aucun montant de réparation n'est prévu. C'est en fait un chèque en blanc que signe le gouvernement allemand. Le montant des réparations ne sera décidé qu'en 1921 à la conférence de Londres. Ce montant est fixé alors à 132 milliards de marks or que l'Allemagne doit donc payer aux pays qu'elle a agressés comme la Belgique, la Serbie, la France. Ensuite, il y a des éléments moraux dans ce traité de Versailles. L'article 231 fait de l'Allemagne et de ses alliés, c'est-à-dire la Bulgarie, l'Empire ottoman et ce qu'a été l'Autriche-Hongrie, les seuls responsables de la guerre. Les historiens aujourd'hui savent évidemment que les causes de la guerre ne peuvent pas être totalement imputées à la seule Allemagne et que les causes du déclenchement de 1914 sont délicates et partagées et que la Serbie a des responsabilités, que l'action de la diplomatie française n'a sans doute pas été suffisamment forte vis-à-vis de la Russie, que celle-ci s'est engagée dans une guerre dont elle ne mesurait sans doute pas non plus les implications. Bref, il est difficile aujourd'hui de faire de l'Allemagne la seule responsable, en tout cas, c'est bien ce qu'elle accepte d'être en signant le traité de Versailles. D'autre part, il y a également un renoncement à l'empire colonial. L'Allemagne avait des colonies en Afrique et en Asie. Par exemple, le Togo, le Cameroun étaient des possessions allemandes. Eh bien, le traité de Versailles va supprimer les possessions coloniales allemandes qui sont distribuées entre Français, Britanniques et Japonais sur le confin asiatique de ce qui fut l'Empire allemand. Donc, il est indéniable que le traité de Versailles a été particulièrement sévère. Et aujourd'hui, les historiens la juge juge la signature comme étant effectivement certainement humiliante. Le problème, c'est que en 1919, à part quelques esprits éclairés, et je pense par exemple à l'économiste britannique Keynes, peu d'hommes politiques sentent le poids que peut représenter pour l'opinion allemande le traité de Versailles. Un traité moins sévère aurait été sans doute fort mal accueilli en France, car la France ayant extrêmement souffert de la guerre, à la fois par les pertes humaines et par les destructions sur bien des départements du Nord et de l'Est, elle n'aurait pas compris une mansuétude. Il est indéniable aussi que, dans l'opinion allemande, le traité de Versailles a pesé lourd. À vrai dire, tout au long de la République de Weimar, le traité a été particulièrement impopulaire, et rares étaient les forces politiques qui osaient défendre la signature du traité de Versailles comme quelque chose de positif. Quant au nazisme, à partir de 1933, il affirma à plusieurs reprises qu'il récusait totalement le diktat de Versailles et que, à ses yeux, il fallait désormais le détruire, ce que Hitler fit.